Dans l'ensemble, ce qu'on a constaté, c'est que les pays européens ont une législation qui est assez au point par rapport au reste de la planète. La législation, elle est à peu près en place, il y a les outils qu'il faudrait. Ce qui se passe, c'est que c'est un peu en trompe-l'œil, parce que même si la législation est en place, elle est très souvent peu utilisée, parce que souvent on met en place une institution, une commission, une agence, une chambre de discipline, vous voyez, mais on ne lui donne pas les moyens d'agir, c'est-à-dire que ou bien le personnel qu'on met à sa disposition est insuffisant, ses budgets de fonctionnement sont trop faibles, les moyens d'investigation qu'on lui donne ne sont pas là. On a de belles institutions, hein, et puis pas grand-chose derrière. C'est souvent le cas. En France en particulier, si vous prenez par exemple la commission qui est en charge de veiller sur le financement des campagnes électorales, eh bien cette commission, elle n'a pas les moyens d'investigation qui lui permettraient de vérifier ce qui lui est dit.
Et alors, comment est-ce que vous expliquez le fait que dans les pays scandinaves, la situation soit meilleure? Est-ce qu'à votre avis, les lois sont mieux appliquées dans ces pays-là?
Absolument, absolument. Il y a une tradition démocratique dans ces pays du Nord qui est beaucoup plus ancrée que dans le reste de l'Europe. Et par exemple, pour vous donner un exemple, les liens entre le gouvernement, la société civile et le secteur privé sont des liens en continu. Les associations peuvent s'adresser au ministère quand elles voient qu'une situation est abusive. Il y a une sorte de coopération qui s'est établie entre les citoyens, vous voyez.
Et alors, à votre avis, en Europe de l'Ouest, est-ce qu'on sous-estime encore trop souvent les risques de corruption et de collusion?
C'est pas qu'on sous-estime les risques, parce que quand vous interrogez l'opinion dans les différents pays européens, vous apercevez que entre 75 et 85% des gens considèrent que la corruption est très importante, qu'elle est souvent en croissance. Mais par rapport à ce constat que font les gens, ils ne réagissent pas. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas le problème à bras-le-corps. Si je prends l'exemple de la France, vous avez ces parlementaires aussi bien de droite que de gauche qui ont été condamnés pour corruption et qui ont ensuite été réélus, disons peut-être pas triomphalement, mais facilement dans leur circonscription. On ne considère pas que la corruption puisse être combattue efficacement.
Mais d'où est-ce que ça vient à votre avis?
Il y a d'abord une sorte de fatalisme des gens qui disent « la corruption va avec le pouvoir ». Il n'y a rien à faire, même si on change le pouvoir, on aura toujours de la corruption dès que le suivant arrivera. Il y a en France une vieille tradition antiparlementaire, qu'on appelle en France le tous pourri, qui fait qu'on dit bah, « ça a toujours été comme ça, ça le restera ». Et dans l'ensemble, les gens considèrent qu'on peut vivre avec. Alors, ça a heureusement tendance à changer, ça, avec la crise, comme elle a réduit les revenus des catégories modestes de la population, ils acceptent de moins en moins que d'autres aient des facilités et en abusent. Il y a aussi eu une sorte de rébellion des juges qui a fait qu'un certain nombre de scandales politico-financiers ont éclaté alors qu'auparavant ils auraient été cachés. Et donc, il y a une sensibilité plus grande qu'autrefois à ce phénomène. Mais ça n'a pas encore atteint le degré où ça serait considéré comme une priorité politique.